Les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Soudan après la démission d'Omar el-Béchir.
Démission ou destitution, en tout cas après l'espoir, c'est la colère pour les manifestants. Après 4 mois de manifestation, l'armée semble avoir repris la main sur le cours des événements en destituant et en arrêtant le président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. L'armée a instauré un conseil militaire de transition de 2 ans, a fermé les frontières. Les manifestants toujours dehors dénoncent une manipulation. En tout cas, la transition sera sans doute longue. Bonjour Marc Lavergne.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes professeur de géopolitique à l'université de Tours, directeur de recherche au CNRS. Alors, cette troisième révolution, hein, comme le disait Lorient Le Jour, après 64 et 85, une chose est certaine, le mouvement de protestation qui avait connu un regain d'intensité a finalement eu raison de la figure du président Omar el-Béchir. Ce qui reste moins certain, c'est la nature de cette mise en retrait présidentielle, destitution ou démission, coup d'État ou révolution, ça vous semble si clair, vous, ce matin ?
Oh bah oui, là je crois qu'il n'y a pas de doute. L'armée s'est débarrassée de son président qui était devenu gênant. Et du coup, effectivement, les manifestants, les partis politiques, les syndicats sont furieux. Et sans doute, n'est-ce pas la fin de l'histoire, hein, mais le fait que ce coup d'État interne ait eu lieu et qu'il ait été immédiatement décidé que le nouveau pouvoir était installé pour 2 ans, c'est une fermeture à toutes sortes de négociations avec la population. Donc c'est sans doute un soulagement pour beaucoup de chancelleries occidentales, mais c'est une grande déception, une grande colère, je pense, au Soudan, et certainement la rue et les formations politiques et syndicales ne vont pas s'arrêter là.
Et juste un mot sur les derniers événements des 6 derniers jours, comment est-ce que vous vous expliquez l'accélération du calendrier ? Donc il y a eu cette journée de manifestation le 6, qui était la date anniversaire d'un précédent soulèvement en 1985. Des manifestations dans la rue, 24 heures sur 24. Cette fois, une journée très tendue mardi dernier avec 11 tués. C'est ça qui a précipité la chute de Omar el-Béchir ?
Oui, je crois qu'au sein de l'establishment militaire, il y a eu la prise de conscience que l'opposition était en train de se structurer dans la clandestinité, autour de ces partis politiques, autour de cette association des professionnels qui représentent les syndicats soudanais, et qu'il y avait une capacité d'organisation qui faisait que la foule est redescendue dans la rue, et qu'il y a eu une sorte de fraternisation avec les officiers de rang inférieur, je pense, et puis la troupe qui hésitait à tirer sur la foule, et surtout qui s'est opposé à l'appareil de sécurité. Donc il y a eu certainement beaucoup de négociations internes au sein du régime pour voir comment sortir de cette situation qui commençait à leur échapper.
Et alors on pourrait noter que donc là les manifestants étaient encore toute la nuit devant le QG des forces armées. Il n'y a pas eu de répression, c'est plutôt un bon point. Ça, on pourrait dire pour les rapports, disons, entre manifestants armés et pour la suite de la transition.
Oui, si on veut, il n'y a pas encore eu de répression, mais je pense que les prisons vont se remplir avec des arrestations préventives de tous ceux qui seraient en mesure ou qui auraient la volonté de s'opposer à ce régime militaire qui se met en place.
Et alors justement, il y a déjà eu l'annonce de la libération de tous les opposants politiques. Je crois qu'ils étaient plus de 1000 arrêtés depuis le début de l'année ou début du mouvement. Est-ce que d'abord ce chiffre est confirmé et est-ce que c'est pas là une sorte d'acquis révolutionnaire, on pourrait dire?
Alors j'ai même entendu dire que tous les prisonniers politiques avaient été libérés, c'est-à-dire y compris les prisonniers politiques qui étaient dans les geôles du régime depuis des années. J'en doute un petit peu, mais je pense que ça peut être une ouverture pour des sortes de négociations avec l'opposition, en leur disant, en maniant à la fois la carotte et le bâton, c'est-à-dire soit vous rentrez dans le rang et vous acceptez ce régime et nous allons essayer de sortir ensemble de la crise, c'est-à-dire surtout de la crise économique et financière, avec le soutien des pays occidentaux, bien sûr, et des pays arabes qui sont à la manœuvre aussi. Il y a certainement beaucoup d'échanges entre les chancelleries occidentales, encore une fois, qui sont soulagées par cette sortie non démocratique de la crise. Et puis les pays arabes, bien entendu. Donc voilà, il y a ce volet-là. Je pense que la junte qui se met au pouvoir ne peut pas se passer de négociations avec l'opposition et ses représentants.
Et alors, quel avenir pour le régime, on va voir. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà une purge qui est en train de se faire au sein de l'État? Évidemment, l'arrestation et la mise sur la touche d'Omar El-Béchir, on ne sait pas ce qu'il adviendra de lui, mais également arrestation de, je cite, plusieurs terroristes des Frères musulmans avec lui, c'est-à-dire le siège du parti, le mouvement islamique qui lui est allié, et puis des arrestations parmi les membres des services de sécurité, dit-on aussi, enfin c'est ce qu'on lit sur certains fils Twitter, est-ce que c'est confirmé aussi ?
Écoutez, c'est logique aussi qu'il y ait une sorte d'épuration interne qui se fasse et que les individus qui ont été identifiés par la Cour pénale internationale, par exemple, parce qu'il n'y a pas que le président Omar El-Béchir, hein, il y a aussi Mohamed Haroun et d'autres.
Oui, donc, le chef du parti Congrès national. Ouais.
Voilà, alors mais dire que le Congrès national est un mouvement, une branche des Frères musulmans, c'est pousser le bouchon un peu loin. Hein. Ce sont beaucoup des hommes d'affaires, des notables provinciaux, enfin, il y a un amalgame qui justement s'est opposé au mouvement de Hassan El-Tourabi, qui était lui l'auteur du coup d'État de 1989, hein, qui avait mobilisé Omar El-Béchir, mais enfin c'est pas Omar El-Béchir qui avait décidé ce coup d'État, c'était Hassan El-Tourabi et son mouvement du Front National Islamique. Donc ces gens-là ont été écartés au fil des années 90, et aujourd'hui ce qu'il y a dans le régime, c'est certainement une alliance ou des liens étroits avec la Turquie, avec le Qatar, tout ça n'a rien de nouveau. Donc les gens qui sont le plus engagés, mais c'est pas sous un angle religieux, c'est plus sous un angle politique. Je dirais que il y a cette proximité avec certains pays qui sont honnis par l'Arabie Saoudite.
Oui, d'ailleurs, vous parliez de la Turquie. Le président Erdogan voulait un processus démocratique normal, disait-il, comme la Russie voulait le retour de l'ordre constitutionnel. La Russie qui a des conseillers militaires sur place. Alors sur le régime, est-ce qu'il peut se réformer à partir de l'armée? Qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est un homme fort providentiel, c'est que quelque chose se dégage de la concurrence entre services qui fasse un contrepoids à l'armée, ou c'est une rébellion interne à l'armée? C'est une hypothèse qui avait été envisagée aussi.
Non, l'armée a joué le rôle de bras séculier, je dirais, dans cette affaire, hein, mais les gens qui tirent les ficelles sont certainement des barons du régime, qui sont pour la plupart des civils ou des gens de l'appareil de sécurité, hein, de la même manière que Omar El-Béchir avait été mobilisé avec son détachement pour prendre le pouvoir en 1989, et il n'a pris effectivement le pouvoir qu'au fil des années contre les idéologues, hein, et en se rapprochant de l'Occident. Et là encore, les liens entre les forces de sécurité et la CIA sont très connus. Les États-Unis étaient en passe de normaliser leurs liens avec le Soudan avant le déclenchement de ces événements. Donc les choses vont reprendre aussi leur cours de ce point de vue-là. Hein. Ces pays-là ont une certaine influence dans la mesure où le Soudan est en faillite financière et a absolument besoin, en toute priorité, d'argent pour calmer la population.
Oui, à voir alors qui sera la figure récipiendaire de tout cet argent et de cette nouvelle diplomatie ou cette continuation. Et pour Omar El-Béchir lui-même, qu'est-ce qu'il peut advenir de lui? Donc emprisonné pour le moment, il faut qu'il survive bien sûr, sortir du pays ou pas, et surtout, est-ce qu'il peut échapper maintenant à la Cour pénale internationale, sachant qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui pour crime de guerre, génocide?
Oui, mais la Cour pénale internationale gêne tout le monde. Hein. Les États-Unis n'en sont pas partis et beaucoup de pays regrettent son existence parce que chacun se sent menacé d'intervention de la Cour pénale internationale, y compris dans les grandes démocraties occidentales qui ont des choses à se reprocher en Irak, au Rwanda, etc. Donc je crois que personne ne va pousser à la roue pour qu'Omar El-Béchir soit traduit à la haie, ni les gens qui l'ont arrêté à Khartoum, ni les anciens alliés, ses protecteurs ou ses ennemis. Donc la solution qui va être cherchée, c'est sans doute à la Ben Ali, peut-être une sorte de mise à la retraite anticipée, je dirais, peut-être en Arabie auprès des lieux saints, peut-être au Soudan même, mais il n'est pas souhaité non plus que le procès ait lieu au Soudan, parce que ça soulèverait beaucoup de passion. Il n'est pas question d'ouvrir les dossiers de ces 30 ans de régime pour l'instant.
Et dernière chose, alors conseil militaire de transition de 2 ans dirigé par le ministre de la Défense Awa Mohamed Ahmed Ben Auf. Qu'est-ce qui peut se passer du côté des chancelleries? Il y en a beaucoup qui appellent à une transition beaucoup plus rapide, c'est ce que dit l'ONU aussi. Elles peuvent influer sur la situation?
Ah ben pour les militaires qui ont pris le pouvoir et les gens qui sont derrière eux, la transition, elle est effectuée. Hein. Je pense que après, ce que l'ONU ou les chancelleries pourront clamer, ça sera soit de l'hypocrisie, soit simplement sans effet. Je vous dis, le seul levier qu'on peut avoir sur ce régime, c'est les finances. Hein. C'est l'aide qui va être apportée aux pays qui le soutiennent ou qui le soutiendront.
Et l'ONU a déjà promis, je crois, plus de 26 millions de dollars, mais d'aide d'urgence pour la population, 800 000 personnes victimes de la crise économique. Écoutez, on en reparlera, on va suivre cette situation au jour le jour. Merci beaucoup pour vos explications. Ce matin, Marc Lavergne, professeur de géopolitique à l'Université de Tours et directeur de recherche au CNRS. Bonne journée.